Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, édition du 18 octobre 21. On revient se parler un peu de toutes sortes de choses après la pause de l'Action de grâce. Et aujourd'hui, nous allons parler entre autres du don d'organes. On va parler au docteur Matthew Weiss, qui est directeur médical des dons chez Transplant Québec. Nous allons faire un tour du côté de l'Ontario avec Jean-François Boulanger, directeur de l'éducation au consortium Centre Jules Léger pour les écoles adaptées pour la cécité, la surdité et les troubles de l'apprentissage. Nous allons parler de sport adapté tout à fait avec la Fondation des sports adaptés et son directeur général Steve Charbonneau. Et pour terminer, Christiane Campagna nous fera faire une fois de plus le tour du monde. Tout ça à Sans détour. Hier, c'était la journée mondiale du don d'organes et c'était aussi l'occasion pour beaucoup de gens de parcourir les montagnes. Il y avait un défi sportif de gravir des montagnes un peu partout au Québec et en Europe aussi. Et j'ai avec moi le docteur Matthew Weiss qui est à Transplant Québec. Vous avez d'autres fonctions dans la vie, mais entre autres, vous vous occupez des dons et des transplantations à Transplant Québec. Bonjour, docteur Weiss. Comment allez-vous?
Bonjour, M. Beauregard. Je vais très bien.
Ça va bien, merci. Est-ce que vous avez gravi le Mont-Royal hier?
Non, malheureusement, là, mais en fait, il y avait un autre événement cette semaine aussi,
okay,
qui était un forum international sur le don d'organes.
Exactement.
Et pour la première fois, je me suis mis dans un habit au complet, avec des nouveaux souliers.
Okay.
J'avais des ampoules qui m'empêchaient de monter les montagnes.
Avec une cravate? Oh.
Oui, ouais, ça faisait longtemps avec la pandémie, depuis je me suis habillé de même.
Oui, je comprends. Ben, oui, c'est un événement important qui avait été organisé de longue date par Transplant Québec, qui voulait regrouper tous les acteurs, intervenants, politiques, législatifs, ainsi de suite. Comment ça s'est passé?
Ah, ça s'est très bien passé, là, dans toutes les sphères, là. Techniquement, c'était bien. C'est pas facile d'avoir une réunion hybride avec le monde à distance et dans la salle, mais ça, c'est bien. Mais aussi, évidemment, le contenu était vraiment au cœur, là. Et le contenu, il y avait des recommandations des experts internationaux, qui étaient, on peut dire un anglicisme, mais challengeant, là. Donc, ça nous poussait un peu.
Demandant.
Mais aussi, il y avait beaucoup d'expertise pour soutenir pourquoi c'était les choses qui fonctionnaient ailleurs. Il y avait aussi des très beaux témoignages des gens qui sont impliqués dans le système, disons les patients, les familles de donneurs, qui donnaient vraiment, qui assuraient que nos pieds étaient sur terre pour garder l'importance.
Parce que il y a un déficit d'organes à donner au Québec. Je pense qu'il y a à peu près 390 transplantations, je pense, au cours de la dernière année au Québec, si je ne me trompe. Mais il y a encore plus de 800 personnes sur la liste d'attente.
Exactement. Donc, c'est ça. Il y a toujours une liste d'attente et ça a des impacts. À l'échelle canadienne, là, il y a eu 275 personnes en 2020 qui sont décédées sur la liste d'attente d'après Canadian Blood Services. Donc, Société canadienne du sang. Et donc, ça, c'est une tragédie, là. Et ça, c'est probablement même pas tout le monde parce qu'il y a des jeunes parfois qui sont sur la liste d'attente, mais ils deviennent tellement malades qu'ils sont retirés de la liste d'attente pour ne pas recevoir un organe. Donc, c'est...
Parce que la réalité, donc, c'est qu'il n'y a pas assez de dons. Le pourcentage des gens qui consentent, quand ils sentent la fin venir, là, à donner une partie de leur corps pour aider quelqu'un d'autre, c'est quoi le pourcentage?
Mais c'est sûr qu'il y a deux niveaux, là. Il y a de signer le registre, soit avec le RAMQ, soit chez le notaire. Donc ça, on ne sait pas exactement combien, parce qu'il y a des deux registres, ils ne se parlent pas facilement, mais au moins 3 millions de Québécois qui ont dit oui à ça.
D'accord. Okay.
Donc, mais le consentement vraiment, quand c'est le moment au chevet, mm-hmm. avec la personne qui est sur le point de mourir ou qui est déjà décédée, ça, c'est à peu près 60 % de confirmation de oui.
OK. Mais encore faut-il que les organes qui vont être prélevés peuvent servir. Parce que si la personne vient décéder d'une insuffisance rénale, je ne pense pas que ses reins soient candidats à une transplantation, à une greffe.
Oui, vous avez tout à fait raison. Là. Mais ça, c'est sûr que le monde qui n'est pas éligible médicalement, mm-hmm. Normalement, on ne va même pas les approcher. On va parler D'accord. avec l'équipe médicale, on va confirmer quelques détails, là, et on va juste recommander à l'équipe médicale que si la famille demande, ils vont expliquer mm-hmm. que c'est pas possible. Parfois, ça arrive plus tard, après que la famille a dit oui, mais puis en creusant dans le dossier médical, on découvre quelque chose qui va empêcher le don. Disons un cancer dans le passé ou quelque mm-hmm. chose, parce que c'est D'accord. sûr qu'on ne va jamais transmettre un cancer au receveur.
C'est assez évident. Ouais, on peut comprendre, mais il en demeure pas moins que les personnes qui, au bout du compte, ont reçu une greffe, des fois ça peut être une greffe de tissu aussi ou d'un organe complet, mm-hmm. ça leur a permis de sauver leur vie. Alors, le don d'organes, c'est un geste, je dirais, remarquable pour prolonger sa vie dans le monde palpable. On est capable de donner quelque chose à quelqu'un qui va nous survivre et qui va nous porter un petit peu. Il y a des considérations philosophiques là-dedans. Est-ce que des fois, il y a des empêchements, je dirais, moraux de cet ordre-là qui surviennent, ou c'est simplement une ignorance ou de la négligence de ne pas le faire?
Je peux dire que le plus fréquent, c'est juste d'être confronté avec les réalités mm-hmm. et quelques aspects logistiques.
Okay.
Ce que je veux dire par ça, là, c'est le tableau, le scénario le plus fréquent, c'est vous avez votre proche qui a vécu quelque chose de terrible, un accident mm-hmm. d'auto, un AVC, quelque chose qui fait qu'ils sont dans un coma profond, avec soit le constat de décès neurologique déjà fait mm-hmm. ou sur le point d'être fait. Et là, vous êtes déjà dans un état de choc.
Oui, okay, oui,
au
tout
chevet.
À fait.
Et là, la possibilité de don est soulevée, mm-hmm. mais souvent, c'est à ce moment-là que la famille apprend que c'est pas quelque chose qui se fait immédiatement.
Mm-hmm.
Par exemple, il y a des prises de sang. Parce qu'il faut qu'on fasse les tests de compatibilité
exact.
Entre le donneur et le receveur. Ces tests-là, ça prend au moins 24 heures d'avoir mm-hmm. le résultat. Et il y a aussi des tests médicaux, des radios poumons et des échographies. Les affaires de même pour vérifier que les organes sont dans un bon état et encore compatibles avec le receveur.
Mm-hmm.
Il y a toute la logistique aussi d'organiser le bloc. Tout ça pour dire que parfois, ça peut prendre 3, 4 jours, mm-hmm. 5 jours même, avant que le prélèvement se fait. Et là, confronté avec ça, parfois la famille, il y en a qui disent non, c'est trop long. Là. Nous, on veut finir ce séjour-là oui. aux soins intensifs. Mm-hmm. On veut commencer le processus de funéraire dès que possible.
D'accord.
Donc, ça, c'est bien plus fréquent, cette raison-là de dire non, qu'une objection morale ou religieuse ou quelque chose de cet ordre-là. Il y en a des gens qui, avec les croyances religieuses, là, qui sont propres à eux et qui disent que non, on veut que mm-hmm. le corps soit complet au moment mm-hmm. de
ben, ça, on respecte ça tout à fait, mais le plus important obstacle, c'est un obstacle logistique, si je peux dire, en partie, est-ce que ce sont parmi les choses qui ont été discutées au moment justement de votre rencontre ce week-end?
Mais c'est sûr qu'une chose qui était discutée souvent dans le forum là, c'est l'éducation,
mm-hmm.
l'éducation publique. En fait, exactement ce qu'on est en train de faire ici là, c'est d'être sûr que l'idée de la réalité de c'est quoi le don d'organes est un peu plus réaliste mm-hmm. dans la tête du monde au lieu de juste être comme une idée abstraite.
Oui.
Parce que c'est sûr que quand on est... Ça, c'était un des témoignages d'une madame que son père est décédé. Et elle avait signé sa carte. Elle savait que son père avait signé sa carte. Mais la première fois que les médecins ont parlé de la possibilité de don, elle a dit non. Elle
okay.
a dit non parce que... Et c'est ça qu'elle a dit sur le podium. Là. Elle était là avant tout le monde. Elle a dit, j'étais tellement bouleversé.
Mm-hmm.
Que je pouvais même pas me concentrer sur c'était quoi la vraie question.
D'accord.
Donc, plus qu'on en parle, plus qu'on en discute avant... qu'on soit en moment de crise.
Dans un état de choc, oui, émotif.
Oui, mm-hmm. mieux que ça va être, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. il y a tellement d'émotions là, mm-hmm. que si la décision de don d'organes est déjà prise et clarifiée, il n'y a pas de... Donc ça, c'est une chose de moins. Mm-hmm. Comme distraction ou comme de mettre ton efface, là, si tu peux juste comme concentrer sur quelque chose d'autre.
D'accord. Avec la pandémie, dans les derniers deux ans, l'écart entre le consentement, le prélèvement d'organes, de tissus et le besoin a dû augmenter. La pandémie ne vous a pas aidé.
Non, la pandémie n'a pas aidé là, pour plein de raisons, y compris le fait qu'il fallait ajouter des protocoles pour dépister le COVID.
Mm-hmm.
OK, parce que les receveurs, là, une fois qu'ils reçoivent les organes, ils commencent un régime d'immunosuppression.
Okay.
Donc, si jamais il y avait un virus, là, qui, le COVID, qui cachait quelque part dans l'organe qu'on transplante, ben, ça va flamber. Donc,
exactement.
Ça, c'était quelque chose aussi, il fallait être vraiment, vraiment prudent. Aussi, il y avait moins de gens qui décidaient dans les circonstances qui portaient vers le don. C'est ça, comme mourir de COVID, vous n'êtes pas un donneur.
Non, c'est sûr.
Parce que vous avez le COVID. Mm-hmm. Mais il y avait moins de monde qui déplaçait, il y avait moins des accidents d'auto. Tant mieux, là. Tant mieux.
Oui. Vous n'êtes pas à la recherche de personnes qui sont dans une situation où ils donnent des organes parce qu'ils sont décédés.
Exactement.
Mais c'est plutôt de voir à ce que les personnes qui ont donné leur consentement, qu'il n'y ait pas d'obstacle au moment où il faille faire le prélèvement à ce moment-là. Et c'est beaucoup... comment je dirais ça, une question d'éducation. Il y a peut-être des mythes aussi, il y a peut-être des légendes urbaines, les gens entendent parler de trafic d'organes puis des choses comme celle-là. Je ne peux pas croire qu'ils ont l'impression que ça a cours dans nos hôpitaux.
Heureusement, ici au Québec, on a le public nous font confiance.
D'accord.
On a une bonne relation avec le public. On n'a pas eu des scandales, on n'a pas eu des controverses majeur des problèmes de sécurité. Nous, on prend très, très au sérieux cette confiance qui nous est accordée par la population.
Oui.
Donc, heureusement, non, c'est pas quelque chose qui est levé souvent. Parfois, pas des gens qui viennent des autres pays où ces problèmes de trafic des organes
existent. Mm-hmm.
Sont vraiment réels. OK? Les autres, parfois, ils ont peur de ça, mais c'est compréhensible. Mais quand on explique que c'est le système ici est transparent, c'est égalitaire. Il n'y a personne qui peut acheter une place sur une liste de greffe. Il n'y a personne qui peut payer pour recevoir
passer devant. Il
n'y
a pas de fast lane. Oui, voilà.
Non. Pas du tout. Donc, c'est fait vraiment sur la compatibilité biologique entre le donneur et le receveur et l'état de sévérité de la maladie de receveur. Là. Plus que vous êtes malade, plus haut que vous êtes
ben,
malade.
Là, c'est sûr, oui. Mais... Dans ce sens-là, une des choses que j'ai lues au moment du bilan du premier forum législatif qui a eu lieu en fin de semaine, encore une fois, c'était qu'il y a beaucoup de juridictions où le consentement est explicite, c'est-à-dire que les personnes consentent à faire le don d'une partie de leur corps pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, à moins qu'on opte out. Alors qu'au Québec, il faut au contraire signifier d'une façon explicite que l'on consente à donner de nos organes pour à des fins de greffe ou de transplantation, et ainsi de suite. Et semble-t-il que le opting out n'est pas si efficace que ça. De dire que par défaut, il y a un consentement, c'est pas vraiment ça la solution. On parle plus d'éducation.
Mais je dirais que c'est pas que c'est quelque chose qui peut contribuer, mais la chose que je pense qu'on a tous appris dans nos discours, là, c'est qu'il faut que le système soit cohérent avec les valeurs de votre société.
Oui.
Et les pays dans lesquels ils ont essayé de faire un consentement présumé, ils disent souvent, là, ou opt-out, c'est où ça n'a pas fonctionné, c'est parce que c'était imposé à la population.
Et que ça correspond pas à la façon d'envisager la société.
Oui, mais si dans les pays où ça a bien fonctionné, bon, c'était des systèmes qui étaient matures, bien développés, bien financés, et avec une bonne discussion entre les gens, dont les transplants et le grand public, pour être sûr que cette ligne de confiance restait forte. Parce que cette ligne-là, là, c'est tout reste sur ça.
Oui, exact.
Il faut que le public nous fasse confiance, quoi que soit le modèle de consentement. Mais c'est sûr que si jamais la population de Québec dise, écoutez, là, on pense que le consentement présumé serait mieux pour nous, peut-être que ça serait le meilleur modèle. Mais c'est sûr que ce n'est pas un modèle qui va forcément tout régler vos problèmes.
Exactement. Pour l'instant, en tout cas, Dr. Weiss, vous êtes directeur médical des dons chez Transplant Québec, et il y a une campagne chez Transplant Québec qui s'appelle « Dites-le ». Alors, oui. On peut aller sur le site web de Transplant Québec, et là, à ce moment-là, il y a toutes sortes d'outils qui vont nous permettre d'expliciter notre désir de procéder à un don d'organes au moment où ces organes-là ne nous serviront plus. Et je dis ça sans méchant jeu de mots, sans ironie. Dr. Weiss, merci beaucoup. On espère qu'on va être capable de rendre tout le processus plus clair et aussi plus, je dirais, doux, pour que les familles dans deuil et traumatisées puissent continuer à consentir au nom de la personne qui les quitte. Merci beaucoup.
Merci de cette occasion d'en parler.
Merci. Comme tous ceux qui, comme moi et Linus, croyons à la grande citrouille à la veille de l'Halloween, vous avez reconnu Vince Guaraldi Trio qui jouait une des pièces qu'on entendait souvent à la télévision quand on était des amateurs de la bande dessinée Peanuts de Charles Schulz. Ça s'appelait Linus and Lucy, voilà. Mais on va parler d'autres choses maintenant. On va parler du consortium Centre Jules Léger, qui c'est une institution provinciale ontarienne en éducation spécialisée auprès des élèves francophones, préscolaires, élémentaires, secondaires. C'est une institution gérée par les francophones et pour les francophones en Ontario. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Jean-François Boulanger, qui est directeur de l'éducation au consortium Centre Jules Léger. M. Boulanger, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super bien, je vous remercie. Consortium, ça, on a l'impression que c'est une multinationale. Là. Expliquez-nous un peu le pourquoi de ce terme-là et comment ça vous a permis justement de vous autodéterminer.
C'est une bonne question. Pourquoi on a choisi le terme? Dans le fond, les consortiums souvent font référence qui sont gérés par une autre entité ou par plusieurs entités. Dans notre cas, c'est pas la façon dont on a été créé. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a utilisé ce terme-là, consortium, pour pas l'appeler nécessairement conseil scolaire.
D'accord.
Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce terme-là, mais quand même, on a une équipe administrative là qui est gouvernée par et pour les francophones. Donc, le consortium est sa propre entité.
D'accord. Et les centres Jules Léger pour l'éducation spécialisée en Ontario, quand même, ça fait plusieurs années que ça existe.
Oui, dans le fond, le centre Jules Léger comme tel, lui, a été fondé il y a 40 ans.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, on desservait les élèves qui avaient des troubles d'apprentissage sévères. Et puis, par la suite, est venu les autres programmes, donc un programme de surdité par la suite, en 1986. Puis, un peu plus tard, on a vu des programmes de surdicécité et de cécité qui sont ajoutés en cours de route.
Vous avez essentiellement deux institutions. Les deux sont situées à Ottawa, je pense, mais vous desservez toute la province de l'Ontario.
C'est ça. Donc, on a un mandat provincial. Donc, on travaille de près avec les 12 conseils scolaires de langue française en Ontario. On est situé à Ottawa. On a aussi un édifice qui est à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Mm-hmm. Et puis, on a des employés qui sont situés un peu partout dans la province.
Et il y a un programme, entre autres, je pense, au Centre d'éducation appliquée pour les élèves qui ont des graves difficultés d'apprentissage. Il y a un programme résidentiel, en fait. Vous les faites venir à l'école à Ottawa.
Oui, c'est ça. On dit souvent aux élèves sont chanceux. Qui peut dire qu'il est venu à l'école en avion? Un jour, oui. Les élèves viennent à l'école, oui. Donc, par exemple, si un élève vient du nord de l'Ontario, mm-hmm. Il demeure en résidence avec les services résidentiels toute la semaine, donc du dimanche au jeudi. Il retourne chez eux le vendredi pour la fin de semaine et il revient par la suite. Donc, c'est un super programme. On a des intervenants résidentiels qui sont non seulement qualifiés, mais qui offrent un milieu de vie aux élèves en soirée pour qu'ils puissent développer à la fois des habiletés au niveau socio-émotionnel, des habiletés psychosociales, l'autonomie, meilleure estime de soi, etc.
Parce que c'est ça, justement, le volet résidentiel, ce n'est pas que un lit, un lavabo, puis un petit déjeuner, là. Justement, c'est l'occasion de développer chez les élèves d'autres compétences aussi, parce qu'ils viennent chez vous pour apprendre à apprendre.
C'est ça, absolument.
Ils vont réintégrer leur école d'origine après ça.
C'est ça. Donc, on offre un programme aux élèves qui ont des troubles d'apprentissage sévères pour un maximum de 2 ans.
Mm-hmm.
Donc, l'élève, c'est renouvelable après 1 an si l'enfant ou le parent ou nous, on décide que, dans le fond, l'enfant est prêt à réintégrer, donc il réintègre. Mais oui, le programme résidentiel, c'est beaucoup plus que ça. C'est des ateliers, des activités, justement, qui répondent à des besoins qu'a l'élève. Puis ensuite, ces besoins-là sont discutés non seulement avec l'élève, mais avec les parents, avec le milieu scolaire aussi. Donc, il y a un plan individualisé là, pour l'élève aussi, puis on le suit. Puis dans le fond, on partage aussi, on communique avec les parents les réussites de l'enfant.
D'accord. Ça, c'est le volet école d'application pour les troubles sévères d'apprentissage. Vous avez combien d'élèves dans ce programme-là?
On en a environ 40.
OK. Donc, de tout âge, je suppose.
Oui, notre brochette d'âge, souvent, c'est la même. Mm-hmm. Donc, on retrouve des élèves qui ont essentiellement 10 ans, 11 ans, jusqu'à 14 ans maximum.
Mm-hmm. D'accord. Et eux viennent de toutes les régions, de l'Ontario. Ce qu'ils ont en commun, c'est des francophones mm-hmm. qui vont retourner dans leur commission scolaire de leur ville. Leur ville d'origine. Vous avez également l'autre institution qui est importante, c'est l'école provinciale pour les élèves sourds qui vivent une situation de surdité ou de cécité ou de surdicité aussi. Et là aussi, c'est une éducation qui est spécialisée. On ne parle pas du même concept de stage, là.
Non, pas du tout. Les enseignants qui enseignent à l'école provinciale ont des qualifications additionnelles, soit au niveau de la surdité. Je vais parler de la surdité en premier.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est un programme qui a des élèves qui ont des surdités variées, donc des élèves qui ont des surdités profondes jusqu'à une surdité, je dirais, modérée. On enseigne en LSQ.
D'accord.
Donc, on utilise la langue des signes québécoise pour faire l'enseignement au jour le jour. Puis là encore là, on a des élèves de 4 ans jusqu'à 21 ans
okay.
et qui peuvent provenir de partout en province.
Mm-hmm.
Puis ensuite, on offre aussi un programme de cécité, et ça, c'est nouveau cette année. Donc, ça fait au-dessus de 20 ans que je pense que l'Ontario français attend un tel programme.
D'accord.
Encore là, on a une personne spécialisée en cécité basse vision. Puis là, présentement, on a à peu près 5 élèves dans cette classe-là qui apprennent le braille.
Ça vient tout juste d'arriver parce que c'était en fait, ça a été annoncé là, tout récemment, je dirais, l'intégration d'un programme destiné aux enfants qui vivent avec une cécité dans les centres de Jules Léger parce que l'enseignement du braille en français, ça n'existait pas.
Non, c'est ça. Puis les conseils scolaires aussi ont demandé de l'appui par rapport à ça. Puis nous, ça faisait longtemps qu'on voulait l'offrir. Puis là, ben, avec la nouvelle gouvernance et le vent de changement qu'on vit présentement, on trouvait de mise de pouvoir offrir ce programme-là. Et finalement, on a eu quand même 5 candidats cette année. Qui sait pour l'an prochain et les prochaines années.
D'accord. Et là, à ce moment-là, est-ce que pour une question de logistique, ça doit être des candidats uniquement de la grande région d'Ottawa? Parce que ça peut être difficile là, de leur faire traverser la province pour une formation comme celle-là.
Oui, absolument. Pour l'instant, c'est des élèves qui sont dans la région d'Ottawa.
Mm-hmm.
Mais on est en train d'envisager, ça pourrait avoir l'air quoi si on décidait d'offrir un programme comme celui-là ailleurs qu'à Ottawa.
Mm-hmm.
Donc ça, il y a des pourparlers là, qui durent depuis l'an passé.
D'accord. Puis ça, c'est parce qu'entre autres, vous m'avez dit, vous avez un comptoir de service à Sudbury, donc où il y a une partie non négligeable, la francophonie ontarienne là, qui vit. Donc, parce que d'amener toujours tout le monde à Ottawa, ça augmente vos frais. Là. Ça vous oblige à maintenir une hôtellerie en plus. Je pense, vous m'avez dit que dans votre classe ou dans l'enseignement pour les personnes qui vivent avec une surdité, des petits-enfants de 4 ans, là, ça ne doit pas être évident de tirer de leur foyer.
Non, puis la majorité du temps, on n'a pas d'élèves qui viennent d'ailleurs, qui ont 4 ans. Puis je peux comprendre, je suis père aussi, donc laisser partir mes enfants à cet âge-là, donc c'est pas ce qui est recommandé, mais quand même, il y a des parents qui décident de déménager dans la région d'Ottawa pour obtenir les services. Encore là, il y a des programmes, des conseils scolaires qui ont des programmes aussi au sein de leur conseil, mais nous, avec l'équipe de consultants qu'on a, on a 13 consultants partout en province qui offrent des services en cécité, en surdité, puis en surdicécité.
Ben, ça, c'est
présent.
Ouais, ben, c'est important de rayonner, puis je vous remercie de le faire. Merci, M. Boulanger, directeur à l'éducation au consortium Centre Jules Léger. Merci, puis continuez.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bonne journée.
Sans détour avec François Beauregard.
C'est inacceptable qu'un jeune ne puisse faire du sport en raison d'un handicap. C'est pas moi qui le dis, c'est une citation de Steve Charbonneau. Steve Charbonneau est directeur général de la Fondation des sports adaptés. Monsieur Charbonneau, bonjour, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien, vous?
Ça va bien, merci. Vous avez eu une belle carrière comme joueur de football dans la Ligue canadienne. Pendant 10 ans, là, vous avez été avec les Alouettes, avec ce qui était l'équipe de Edmonton, là, qui s'appelle aujourd'hui les Elks, et vous avez gagné la Coupe Grey 2 fois. Vous auriez pu, comme bien d'autres sportifs, ne faire carrière que simplement dans les médias sportifs, ce que vous avez d'ailleurs fait, mais vous êtes lancé dans quelque chose qui est complètement différent. Vous êtes devenu directeur général d'un organisme qui était tout petit, il y a 6 ou 8 ans. Il n'y avait comme qu'une cinquantaine de personnes qui participaient à 1 ou 2 activités. Puis 6 ans plus tard, il y a 800 personnes qui font du sport grâce à la Fondation maintenant?
Oui, ça, c'était les statistiques avant la COVID.
OK.
Et là, ben, c'est sûr que cette année, quand on a connu le déconfinement, disons, rapide, là, mm-hmm. à partir du mois de...
Septembre-octobre.
Mm-hmm. Oui, ben en fait, ben nous, en mars, on ne savait pas encore ce qui était pour se passer pour le programme d'été.
D'accord.
Et disons que c'est à peu près début juin là, qu'on a été capable de mettre sur pied un horaire type là, pour cet été. Puis ça a commencé avec quelques sorties de prévues pour l'été. Puis finalement, on a fait énormément de sorties. C'était 2 à 3 par semaine.
OK.
Pour aller, on a eu tout près là, de 350 personnes cet été en période de COVID, mm-hmm. en période de pandémie. Donc, c'était pour nous, on peut juger ça comme un succès. Là. Et mais on va voir comment ça va se passer pour cet hiver aussi, puis pour la suite. Mais ça regarde bien. On regarde les activités de cet hiver comme si. C'était presque une année normale. Mm-hmm. On va voir jusqu'à quel point on peut accueillir de personnes. Et tout dépend là, du gouvernement, puis qu'est-ce qu'on décide. Mais ce qui nous a, disons, affecté un peu les statistiques, là, si on peut parler ainsi, c'est notre unité mobile qui parcourt le D'accord. Québec. Mm-hmm. Ben, cette année, ça a été difficile parce oui. qu'on a vraiment mis le focus sur ici en région, là, en Estrie. Mais notre unité mobile pour le ski cet hiver devrait reprendre.
Bon, parfait. Parce que dans des conditions, entre guillemets, normales, vous avez quand même eu une croissance exponentielle là, au cours des 6 ou 7 années qui ont précédé la pandémie. On ouais. peut penser qu'il y a certainement le potentiel pour à nouveau avoir des centaines de jeunes qui participent à vos activités. Quel est votre public cible, les personnes qui participent aux activités organisées par la Fondation du sport adapté, quel est leur profil?
Bien, n'importe qui, en fait, qui vit en situation d'handicap physique mm-hmm. de 7 ans à 99 ans.
D'accord.
Pourquoi 7 ans? Bien, ça peut être 5 comme ça peut être 10 ans. C'est juste que les équipements sont pas nécessairement faits pour les petits-enfants.
Mm-hmm.
Quand on arrive dans un format trop petit, ben c'est un peu difficile de... On peut adapter un équipement adulte pour petites personnes, quelqu'un, un small, mm-hmm. là, exemple, pour un enfant, mais un enfant qui est vraiment tout petit, là, à 5-6 ans, là, c'est...
Ça devient difficile.
Ouais, on n'est plus capable d'ajouter de fondre.
D'accord.
Fondes, puis...
Parce que vous adaptez toutes sortes de sports. On parle de kayak, ouais. de ski nautique, de vélo tandem, de ouais. planche à pagaie. Alors, vous avez mis, je dirais, à la portée de personnes pour qui ces sports-là étaient, hors zone. Là. Vous avez pu ouais. mettre ces sports-là à leur portée pour qu'ils puissent avoir le plaisir de les pratiquer en adaptant des équipements, entre autres.
Oui, bien, en fait, c'est ça. Le premier programme, ben vous l'avez mentionné, là, c'était le ski alpin, mais après mm-hmm. ça, on a lancé le ski nautique. Puis c'est un peu comme le film le Field of Dreams, là, If You Build It, They Will Come.
Mm-hmm. Oui.
On savait pas trop. On s'est fait former par un bonhomme qui fait du ski nautique adapté dans la région d'Ottawa depuis 20-25 ans. On s'est fait former, on savait pas trop où c'était pour nous mener. Finalement, on est devenu le plus gros programme de ski nautique adapté au Canada.
OK.
Ça a pas été long. Et après ça, on a ouvert d'autres programmes parce que le sport, nous autres, on veut se concentrer seulement sur les sports de plein air.
D'accord.
Les sports à l'intérieur, c'est quand même déjà existant et mm-hmm. très bien structuré. Mais le plein air, ben il faut faire avec la nature, il faut
oui.
faire avec des terrains qui sont pas nécessairement accessibles. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on essaie le plus possible de
faire sortir, disons, faire sortir les gens.
Oui, pour... ouais, ben c'est ça, d'initier les gens, en fait, d'encourager les gens à sortir de la maison puis venir quand même faire du plein air.
Mm-hmm.
Même si le terrain n'est pas nécessairement adapté, ben nous, nos bénévoles sont là pour aider. Les équipements ben, rendent la chose beaucoup plus facile. Et en fait, il y a trois facteurs. Le manque d'accompagnement, mm-hmm. donc on l'offre avec nos bénévoles. On est rendu à 225 bénévoles en temps non-COVID. Là. 225 bénévoles. Et ensuite, l'équipement. Ben, l'équipement adapté, on l'a. Puis le troisième facteur qui fait que les gens n'osent pas sortir puis bouger, c'est souvent la distance à parcourir oui. entre la maison. Puis, tu sais, le transport adapté n'est pas toujours...
Mm-hmm. Oui, partir de Montréal, aller faire de la randonnée à Orford, par exemple, là, c'est pas ouais. évident.
Ben non, c'est ça. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'unité mobile, on organise des journées, exemple pour le DAHU, pour mm-hmm. aller en montagne, ben on va aller sur le Mont-Royal.
D'accord.
C'est sûr que c'est pas une grosse montagne, mais on va le faire quand même, puis c'est prouvé que les bienfaits là, qu'apporte la nature pour les gens, c'est incroyable. Mm-hmm. Donc, juste de se retrouver, en plus, là, on est dans les couleurs, se retrouver dans le bois, c'est super beau. On amène des gens au run top, là, au sommet d'Orford, Bromont, mm-hmm. Puis en fauteuil adapté, là, qui permet à nous, les bénévoles, d'amener cette personne-là en haut. C'est sûr que on vise toujours l'autonomie des personnes. Mm-hmm. Si quelqu'un qui est capable de monter un sentier ou une partie de sentier en fauteuil, ben c'est le fun. C'est sûr que c'est ça qu'on
ce serait
veut.
C'est le but ultime, oui.
Mais en même temps, il faut être réaliste que le sommet de la montagne, souvent, il y a des sentiers très, très accidentés, puis un fauteuil même en guillemets adapté, ben la personne qui doit forcer pour, mm-hmm. pour s'amener, c'est très, très difficile. Donc, il vient un moment où on n'a peut-être pas le choix là, pour amener les personnes
à vivre l'exaltation du sommet. Hein? On peut appeler ça comme ça. Hein?
Le DAHU, le paracyclisme, la planche à pagaie, là, on est en étude parce qu'on a deux équipements pour le mountain bike adapté. Mm-hmm. On les a avec nous. On est en train de regarder ça, de tester ça pour lancer le mountain bike adapté à Bromont l'année prochaine. Puis c'est assisté, donc 100% mm-hmm. assisté. Fait que là, on a une catégorie de gens qui vont pouvoir, par eux-mêmes, conduire le bolide puis monter jusqu'au top de la montagne.
OK. Parce qu'il y a une partie de cette adaptation-là, il faut que vous ayez avec vous des gens qui sont des bricoleurs là, puis des designers industriels parce qu'il faut penser à comment le faire. Ça, c'est une chose. Ouais. Puis l'autre chose qui est remarquable avec la fondation, sa croissance, c'est votre capacité à trouver du financement. Mm-hmm. Vous avez des partenaires corporatifs ou privés qui sont solides. Ça vous a permis d'avoir une croissance comme celle que vous avez connue. Alors, vous passez une partie non négligeable de votre temps à faire des campagnes, des levées de fonds, des collectes, ainsi de suite. Puis ça a bien marché, votre affaire.
Oui, ça, c'est il y a 3 ans. On a lancé une grosse campagne de financement pour justement nous aider à prendre un peu d'expansion à travers la province. Ça nous a permis de lancer le programme de ski alpin mm-hmm. dans la région de Québec. Là, Stoneham, le relais, Massif du Sud, c'est nous. Puis avec l'unité mobile aussi, Vallée du Parc, Chanteclair, on se promène dans plein de régions. Mais ça, évidemment, faut financer. On n'est pas financé par le gouvernement du tout. C'est que par le privé, les fondations privées, les instituts, les donateurs, les individus. Et nos activités de fundraising, là,
de
financement mm-hmm. qu'on n'avait pas à l'époque. On a eu notre 6e tournoi de golf annuel et on a quelques événements comme ça qui nous aident à financer les équipements surtout. Et puis après ça, ben évidemment, pour le reste, ben on compte vraiment sur la générosité des donateurs privés mm-hmm. et des fondations.
Exact. Vous avez, parallèlement à toutes ces activités-là, aussi créé un programme pour les soldats blessés.
Oui, oui. En fait, ça je dirais que j'ai aucun mérite. C'est mon prédécesseur, en fait, le fondateur de la fondation, là, Peter Tracy, qui mm-hmm. travaillait avec Soldier On, Soldats sans limite en français.
D'accord.
C'est des vétérans blessés qui avaient un camp, ils organisaient un camp de ski national pour les vétérans mm-hmm. qui se passait ici à AZ.
D'accord.
Et on a perdu ce camp-là juste avant que j'arrive. Ça faisait 4, Moi, je suis arrivé en 2014. Le dernier camp qu'on a eu avec Sans Limite, c'était peut-être 2009-2010. Quand moi, je suis arrivé et j'ai appris qu'on avait ça, j'ai dit, pourquoi qu'on ne le remet pas sur pied, mais on va le faire que pour nos soldats d'ici, de la province, au lieu de faire venir des gens du BC. Puis, on a recommencé ça. Puis, finalement, c'est devenu un programme en soi. On a un programme multisport avec les vétérans. On a un programme nautique, un programme de sport alpin ou sport de glisse.
Ben, vous êtes modeste, Steve, parce que là, vous dites que vous n'avez aucun mérite, puis vous l'avez fait renaître de ses cendres, puis vous l'avez multiplié. Alors, tout ça, c'est fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de bénévoles, des donateurs généreux, puis aussi beaucoup d'imagination. Ben, je vous remercie beaucoup, Steve. Steve Charbonneau, vous êtes le directeur général de la Fondation des sports adaptés, puis de faire sortir les gens de chez eux, ça fait tellement de bien à l'esprit, autant qu'au corps. Alors,
c'est l'objectif.
On vous souhaite une belle saison d'hiver.
Merci beaucoup.
Merci.
Bye-bye.
C'était Sale Barbe, un super groupe acadien. En fin de semaine, j'ai acheté mes billets pour un spectacle de Sale Barbe qui aura lieu le 13 octobre 2022. Alors, voilà. on espère qu'on puisse tous y être. Alors, voilà. Ça, c'est tiré de leur deuxième album qui est sorti cet été. Et je sais que par ça, je faisais plaisir à notre recherchiste chroniqueuse de tout azimut, Mme Campagna, qui n'est pas indifférente à la musique traditionnelle. Mme Campagna, comment allez-vous?
Je vais très bien, vous?
Ça va bien, merci. Quoi de neuf dans le monde?
Ben, tout d'abord, un tour du côté des États-Unis, où une étude de la CDC, le Centers for Disease Control and Prevention, dont on a beaucoup entendu parler depuis mars 2020. Alors, ils ont fait paraître une étude qui montre que les personnes en situation de handicap ont plus de mal à se faire vacciner, alors qu'en fait, c'est un segment de la population qui a un taux d'hésitation plus bas. Alors, le problème n'est pas là.
C'est l'accès. C'est pas le désir qu'il n'y ait pas, ni le besoin, c'est
voilà.
L'accès.
Donc, c'est une enquête qui a été menée auprès de 57 000 personnes de mai à juin. Et les personnes dont non vaccinées ayant un handicap, comme un handicap moteur, auditif, visuel, étaient presque deux fois plus susceptibles que leurs homologues non vaccinés sans handicap de dire qu'elles se feraient certainement vacciner. Et c'est un sondage qui excluait les personnes vivant dans des résidences spécialisées. C'était seulement les gens qui habitent chez eux, chez leurs parents. Pourtant, les personnes handicapées étaient moins susceptibles d'être vaccinées. Mm-hmm. Parmi les 50 à 64 ans, 63 % des personnes handicapées avaient reçu des vaccins contre 72 % des autres, parmi la population générale. Et parmi les personnes de plus de 75 ans, l'écart est plus petit parce qu'il y a eu un gros effort de fait pour rejoindre les aînés, mais il restait un décalage quand même. Et d'études à noter, donc, qu'il s'agit, parmi les problèmes, les sites web pour s'enregistrer, pour prendre rendez-vous,
qui ne sont
pour
pas
s'informer,
accessibles,
voilà. Qui n'étaient pas tous conformes aux recommandations d'accessibilité de base. On a aussi montré que tous les sites de vaccination n'avaient pas d'interprètes ou de travailleurs en langue des signes américaine aussi pour accommoder les personnes qui ont un handicap auditif et qu'on manquait aussi de personnes formées pour aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à les accueillir et dans les centres de vaccination. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était plus difficile pour les personnes handicapées.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on faisait exclusion des personnes qui résident dans des institutions où là, on peut penser que la vaccination était systématique.
Alors, voilà, parce que souvent, on a carrément transformé ces lieux-là en centres de vaccination. Là.
Oui, tout à fait.
Alors que c'était plutôt pour les personnes qui étaient laissées à elles-mêmes ou à leurs proches pour prendre rendez-vous, pour se rendre, pour obtenir les informations pertinentes aussi. Je note que, bon là, je suis dans ma revue de presse internationale, mais le RAC l'a souligné, le RAM aussi à maintes reprises.
Tout à fait.
Nos sites Internet n'étaient pas plus accessibles. Il y a aussi des obstacles présentement concernant l'obtention de la preuve vaccinale. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aux États-Unis, il est censé y avoir une loi nationale sur l'accessibilité.
Ben, qui n'est pas toujours appliquée. Puis, qu'il y ait une loi ou non, c'est un service à rendre à la population, surtout si c'est un segment qui est vulnérable.
Oui.
Voilà.
Et dans le même ordre d'idée, dans l'État de New York, cinq agences gouvernementales et diverses localités ont accepté de corriger les sites web de vaccins contre le COVID-19 suite à une enquête du ministère de la Justice. Mm-hmm. En fait, c'est d'abord des médias qui en ont parlé et ça a amené le ministère de la Justice à faire une enquête. Donc, les comtés de Nassau et de Suffolk, ainsi que le ministère de la Santé de l'État de New York, le ministère de la Santé de la Ville de New York, la New York City Health and Hospital Corp, ont tous signé finalement une entente disant qu'ils vont régler, qu'ils sont en train de régler les problèmes empêchant les utilisateurs aveugles ou malvoyants d'accéder aux formulaires ou de naviguer sur les sites web de prise de rendez-vous et pour s'informer. Et ils se sont donc engagés à corriger et à maintenir, à faire une maintenance pour que ça... Parce que parfois, il y a des mises à jour qui nuisent
à
l'accessibilité.
Oui, puis là, quand la mise à jour, parfois, vient, je dirais, en conflit avec les outils qu'on peut avoir, les logiciels qu'on peut avoir pour accéder à du texte électronique, souvent, les mises à jour ne sont pas conformes avec JAWS ou ZoomText ou ainsi de suite.
Voilà. Clark Schaffal de l'American Council of the Blind a déclaré que ces accords publics sont vitaux parce qu'ils avertissent les autres juridictions qu'il s'agit d'une violation des droits civils des personnes handicapées. L'inaccessibilité des sites web du gouvernement est illégale, selon lui, en vertu de la Rehabilitation Act de 1973 et de l'American with Disabilities Act de 1990. Non, ça, c'est plutôt l'opinion d'Albert Elia, un avocat aveugle qui travaille avec un autre organisme, qui travaille avec la Tree Legal Practice de San Francisco sur des cas d'accessibilité. Il espère que la pandémie a montré à quel point l'accessibilité en ligne peut être vitale.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est pas seulement la vaccination qui est en jeu, c'est une période où On s'est mis à commander la nourriture en ligne, les vêtements en ligne, les médicaments en ligne. Puis l'idée, il espère que l'idée que c'est pas si grave que ça, que ces choses-là ne soient inaccessibles, le fait qu'on voit ça comme banal, bien qu'on n'en est plus là maintenant parce qu'il est temps que le public se rende compte que couper l'accès en ligne coupe,
ça coupe tout.
La qualité de vie.
Tout à carrément fait.
Et même des choses essentielles.
Ça peut être soit des urgences sanitaires, comme ce que la COVID-19 nous impose, mais c'est en même temps la façon de vivre qui sera dorénavant, je dirais, pratiquée. Hein?
Oui.
Les gens vont commander. Et d'autant plus, si on a une question que la mobilité est difficile, parce que là, l'accessibilité, je dirais, physique n'est toujours pas à point, bien là, on est encore plus dépendant de faire venir les choses à la maison. Et si en plus le site pour le faire n'est pas accessible, bon, ben là, on tourne en rond.
Cette grande loi cadre date de 1990 et n'a jamais été mise à jour pour le monde numérique, ce qui fait que ça dépend de juge en juge. Mm-hmm. Il y a même une très grande chaîne, la compagnie de pizza Domino's, qui était prête à aller jusqu'en Cour suprême pour dire que la loi ne s'appliquait pas à son site web.
Ils veulent pas nous vendre des pizzas.
Qu'elle ne s'appliquait qu'à ses restaurants physiques.
On boycotte la pizza Domino, voilà, c'est tout.
Tout simplement. Mais c'est, disons que c'est pas très connu auprès de la population générale.
Cette hargne à ne pas se conformer, c'est remarquable. Mais ils dépensent plus en avocat qu'en technicien pour voir à ce que leur site soit conforme et légitime.
Tout à fait, ça aurait coûté beaucoup plus cher de se rendre à la Cour suprême. La Cour suprême avait tout simplement refusé la cause.
Bien fait.
Le Parlement européen entend renforcer les droits des personnes handicapées. En fait, l'idée, c'est de uniformiser les droits des personnes handicapées sur le territoire européen. Et c'est relié à un mécanisme, en fait, dans l'Union européenne de pétition qui a mené à le Parlement à cette décision-là.
À se pencher là-dessus, parce qu'il y a la possibilité, donc, pour les citoyens européens de faire une pétition, une demande auprès du Parlement européen pour demander une réforme de la loi ou une standardisation des règlements.
Voilà, exactement. Alors, on touche la reconnaissance du statut de handicap vraiment entre les États membres, que quelque chose qui est reconnu comme un handicap dans un des États le soit partout. Il y a des enjeux quand on tombe dans les handicaps invisibles, notamment. Oui. Et on veut parler donc d'accès au transport public, à l'éducation, à l'emploi ou à l'utilisation de la langue des signes. Le rapport pointe de nombreuses discriminations auxquelles sont confrontées quotidiennement les personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Le débat a suscité peu d'opposition, mais les organismes veulent continuer à pousser et rappeler encore une fois que la pandémie de COVID-19 a davantage frappé les personnes en situation de handicap. Et dans certains États, ça a amené, quand on nomme certains États d'Europe de l'Est notamment, ça a mené à des reculs.
Mais on peut penser que la législation ou les droits ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, parce que ça, c'est pour des raisons historiques. On espère qu'ils vont niveler vers le haut. On dit dire niveler vers le haut. Il me semble que quand on nivelle, c'est toujours vers le bas. Au lieu qu'on rehausse, le plancher pour tout le monde, on espère que ce sera ça plutôt que l'inverse.
Et qu'il faut que ça commence par le Parlement européen lui-même, puisque une députée en fauteuil roulant n'a pas pu aller sur le podium pour prononcer son discours
parce que
sur ce sujet-là.
Le podium lui-même n'est pas accessible.
Voilà.
Ah, là, ça, c'est terrible qu'ils aient honte. Mais enfin, on peut penser aussi, c'est ça, il y a un désir. Hein? Personne ne va dire qu'on est contre. Il n'y a pas un député européen qui va dire « Ah non, moi, je suis contre l'accessibilité. » Mais en fait, tout le problème, après ça, c'est l'application de la réglementation. On l'a vu avec l'American with Disability Act, dont on parlait il y a 3 minutes. C'est pas parce que la loi existe qu'elle est appliquée. En Europe, ce sera la même chose, voir jusqu'au fin fond de la campagne de Russie près de la frontière. Là, on nommera pas de pays, mais peut-être que là-bas aussi, il faudra que ce soit appliqué. Voilà.
Voilà. Et finalement, en Grande-Bretagne, il y a une association de défense des droits des personnes aveugles qui a lancé une campagne. Ils s'installent dans les commerces, des petits commerces, pour que ce soit faisable. Et ils emballent tous les produits dans des emballages sans aucune écriture dessus.
Uh-huh.
Et là, les gens réagissent parce que tout d'un coup, ils s'inquiètent. Je ne connais pas les valeurs nutritives. Je ne sais pas ce que contient ce contenant.
Il faut d'abord savoir si c'est du jus d'orange ou du lait. Après ça, la valeur nutritive, c'est autre chose.
Oui, et puis là, une personne s'inquiétait. Oui, mais si j'ai des allergies. Ah. Et donc, la Royal National Institute of Blind People, ou Institut Royal des Aveugles, dit qu'on devrait tous avoir le droit de savoir ce qu'on achète.
Oui.
Et alors, c'est pour ça qu'ils ont lancé cette campagne de sensibilisation. Ça fait plusieurs articles que je vois passer concernant l'emballage récemment. Beaucoup de grandes compagnies lancent des emballages avec du braille dessus. Mm-hmm. C'était le cas d'Yves Rocher, c'était le cas de plusieurs compagnies aussi aux États-Unis. Mais les associations disent attention, là, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont un handicap visuel qui maîtrisent le braille. Alors, il faut innover pour trouver d'autres solutions. Il faut notamment penser au caractère plus grand, mais peut-être aussi faire appel à la technologie, penser à des applications qui lisent, par exemple, le code-barre des produits.
Oui,
pour pouvoir traduire vocalement ce que contiennent les produits.
Qu'on puisse tenir un produit dans la main et le scanner, enfin, trouver son code-barre, déjà, ça, c'est pas évident. Mais enfin, on peut dire que si universellement le code-barre serait toujours sur la même face du carton, puis après ça, qu'on ait une lecture à l'oreille de ce que ça signifie.
Oui, bien, en tant que personne qui utilise beaucoup des caisses libre-service, ça s'améliore. De moins en moins, il faut être très précis dans la façon dont on place le produit. Les appareils trouvent de plus en plus facilement le code-barre par eux-mêmes, donc ça aide. Puis évidemment, avec ça, il faut la démocratisation de cette technologie-là. Mais on pense, par exemple, au iPhone qui est de plus en plus répandu au sein des personnes qui ont un handicap visuel.
Ben voilà. Ben merci beaucoup, Christiane Campagna, qui retourne chacune des pierres qu'elle trouve sur son chemin. On remercie aussi Jean-Sébastien Laliberté qui, lui, voit ce que tout tourneront dans cette émission, malgré le chaos qu'on lui impose parfois. Alors, à la semaine prochaine, le 25, nous allons nous retrouver à Sans détour.